d'abord prendre un peu le contexte général du XVIe siècle, qui est important, c'est celui de Luther, c'est aussi celui de Saint Ignace de Loyola. Alors, guerre entre la France et l'Empire, entre François Ier et Charles Quint. Donc c'est un siècle au cours duquel la France prend de la consistance et l'Empire, le Saint-Empire germanique en a depuis longtemps. Mais voilà qu'on a élu Charles Quint, donc, qui réunit à ce moment-là entre ses mains beaucoup de titres. Il est à la fois empereur d'Allemagne, prince des Pays-Bas, roi d'Espagne, roi de Sicile. François Ier est roi de France, il aurait bien aimé être élu empereur, mais enfin il n'a pas été. Donc il y a une énorme rivalité à cette époque-là, pendant toute la première moitié du XVIe siècle en tout cas, entre ces deux hommes. Alors ces deux hommes, figurez-vous que l'un est né en 1494 et l'autre en 1500, à Gand d'ailleurs. Ouais. Charles Quint est né à Gand. Donc ce sont des hommes qui ont à peu près le même âge et qui arrivent au pouvoir à un âge extrêmement jeune. François Ier est donc roi de France à partir de 1515. Alors si je compte bien, il a 21 ans. Il va régner jusqu'en 1547. Il commence à régner à l'âge de 21 ans. Et Charles Quint fait encore mieux, puisqu'il est élu empereur à l'âge de 19 ans. Donc nous avons là deux hommes qui s'affrontent pendant toute la première moitié du XVIe siècle et qui sont deux personnes extrêmement puissantes, évidemment, intelligentes, politiques, tout ce qu'on veut, mais l'un a commencé à régner à 19 ans et l'autre à 21. Et vous voyez, tout le sort de l'Europe a été entre les mains de ces deux hommes, hein, qui ont commencé à régner très tôt et qui n'y ont pas été de la main morte dans leurs décisions, à tout point de vue. François Ier, bon, a d'abord des vues sur l'Italie, mais bientôt il doit se retirer. Son opposition à Charles Quint, finalement, domine toutes ses décisions, toute sa politique. Et c'est comme ça que Charles Quint, catholique, étant embêté par les protestants de son empire, eh bien finalement est contré par un François Ier qui s'allie aux protestants allemands. François Ier est aussi catholique, mais il s'allie aux protestants allemands et aux Turcs. Et aux Turcs de l'autre côté, pour essayer de coincer Charles Quint. Donc voyons un prince catholique, hein, au grand scandale de la chrétienté, eh bien prendre parti et pour les protestants et pour les Turcs parce qu'il en veut à Charles Quint. Charles Quint, de son côté, bon, bah, il réunit tous ses pouvoirs entre ses mains. Il essaye de maintenir le catholicisme, bien sûr, mais il n'y arrive pas tout à fait, au sens où ben, dans les états de l'Allemagne du Nord, en Saxe, donc précisément la patrie de Luther, hein, il doit bien instantanément concéder à la paix d'Augsbourg le fameux cuius regio, eius religio. Ça veut dire que si le prince d'une terre a choisi pour le protestantisme, eh bien tout son territoire devient protestant. Si il a choisi pour le catholicisme, tout son territoire est catholique. On ne peut pas dire que c'est vraiment de la tolérance ni de la liberté religieuse, mais enfin, c'est une décision pragmatique pour que les princes ne se battent pas trop entre eux. Mais il y a ainsi des diocèses allemands qui ont changé 6 ou 8 fois, hein, de confession en un siècle ou deux. J'ai une pile, ça va. Et donc nous voyons que ces questions politiques sont importantes, mais notamment aussi pour le Concile de Trente. Parce que qui convoque un concile, principe c'est le pape, mais c'est aussi l'empereur et le roi, hein, depuis longtemps. Les empereurs ont affaire avec la convocation d'un concile, et donc ce sont des ennemis qui doivent convoquer ensemble un concile pour le pape, qui doit bien choisir un peu pour l'un ou pour l'autre, ou faire semblant que non, enfin. Donc sécessions du concile ont été, disons, empêchées, notamment par toutes ces guerres. Hein. Et donc l'Église catholique essaye d'être la plus neutre possible, mais tout en défendant la catholicité contre les protestants. Donc voilà donc un grand problème religieux et politique hein, du début du XVIe siècle. Alors, la papauté n'a pas bonne presse à cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le grand schisme d'Occident, donc de 1378 à 1417, il y a eu deux papes, et puis trois, et puis on ne savait plus quel était le vrai, hein, quel était le faux. Il y avait Avignon, il y avait Pise, il y avait Rome, enfin trois papes qui se battaient, et finalement c'est le pape Grégoire, je ne sais plus lequel, qui a eu cette idée géniale hein, de dire on va convoquer un concile et je propose à tous les papes d'abdiquer à ce moment-là et on va essayer de nommer un pape pour les trois factions. Et c'est ce qui s'est passé, heureusement. Donc on est revenu à un pape unique. Mais là, l'Église avait, disons, frôlé une catastrophe hein, et c'est resté un peu dans les mémoires, évidemment. Pendant tout le siècle qui a suivi cela, il y avait de la rogne dans l'Église catholique, et donc Luther n'est pas venu comme quelqu'un de tout à fait révolutionnaire. Il y avait beaucoup de rogne à l'intérieur de l'Empire et de l'Église catholique. L'essentiel de la vie de Luther s'est passé à Wittenberg, en Saxe, ville universitaire, que j'ai visitée il y a 2 ans, et où j'ai acheté une bande dessinée hein, sur la vie de Luther. Alors, comme vous voyez, qui est-ce qui est sur l'épaule de Luther ? Un diable. Un diable, oui, parce que, évidemment, la vie de Luther et le diable, ça va bien ensemble, si j'ose dire. Alors, contre l'avis de son père, Luther, à l'âge de 22 ans, décide d'entrer chez les Augustins, et 2 ans après, il est ordonné prêtre. Ça va vite, hein ? Donc, à 24 ans, il est prêtre, c'est un religieux fervent, qui devient docteur en théologie quelques années plus tard, à l'âge de 29 ans.
Mon Dieu, c'est rapide.
On parle parfois de ses scrupules, etc., à cause éventuellement d'une vie de méconduite à l'intérieur du couvent. Mais je ne crois pas que c'est de ça qu'il s'agit, il n'en est rien. Hein, c'est un homme extrêmement scrupuleux, au contraire, hein, qui essaie de vivre parfaitement sa vie de religieux, mais il est dévoré par les scrupules. Et il croit continuellement qu'il va être damné. Et en lisant la Bible et en lisant saint Augustin, il se dit je ne suis qu'un pécheur, Dieu va me damner, etc. Enfin, il a énormément de peine à vivre sa vie religieuse tranquille. Alors, en 1517, il y a la tourme Herblepnis, je vous en parlerai après. Il fait une espèce d'expérience religieuse ou mystique dans une tour en 1513, plus ou moins, on ne parvient pas à la dater, mais je vais vous en parler après. C'est sa profonde intuition protestante, hein, d'être sauvé par la foi pure, la foi confiance absolue. Mais je vous en parlerai davantage. Mais armé de cette intuition nouvelle, qu'il ne trouve pas dans l'Église catholique où dit-il qu'il n'y a pas assez de foi, il n'y a pas assez de confiance en Dieu, mais au contraire, il y a une espèce d'escalade des œuvres. Il faut faire des œuvres, il faut faire des aumônes, il faut faire des pèlerinages, il faut faire des tas de choses. Et, pense-t-il, hein, tout cela n'est pas assez nourri par la foi, et on croit qu'on va gagner le salut par les œuvres, en faisant des choses. Et donc c'est l'homme, dit-il, accuse-t-il, les catholiques, hein, c'est l'homme qui gagne son salut en faisant des œuvres, et ça c'est du pélagianisme. On a vu Pélage, hein. Déjà auparavant, donc Luther accuse l'Église catholique d'être trop pélagienne, mais pas assez croyante. Alors lui, il a fait cette expérience à la tour Herblepnis, l'expérience de la tour, hein, de tous ses scrupules et tout ça, tout à coup tombe dès qu'on a une foi absolue en Dieu. Et qu'on se fie seulement à la foi et à rien d'autre. Dieu et miséricorde, je le crois, je veux le croire, j'ai la grâce de le croire, et alors tout se simplifie, il ne faut plus penser au péché, plus penser aux pénitences, plus penser aux vœux, plus penser à tout, rien du tout, de ce que les catholiques mettent toujours en avant comme des bonnes œuvres à faire. Alors en 1517, il y a un certain Tetzel, un dominicain qui prêche partout, l'idée des indulgences. Les indulgences, eh bien, ce sont justement, c'est une des œuvres qu'on peut faire, c'est de donner de l'argent à l'Église pour gagner des mérites, pour gagner des jours de purgatoire, pour gagner toutes sortes de grâces et de faveurs. Alors Luther n'est pas d'accord, on n'achète pas Dieu. Et surtout, il ne faut pas que l'Église se mette là-dedans. Donc, il commence à prêcher contre les indulgences, contre ce fameux Tetzel qui réunissait de l'argent. Pourquoi réunissait-il de l'argent? Eh bien, entre autres, pour les édifices qu'on était occupé à construire à Rome. Je vous ai mis en note dans le syllabus qu'à ce moment-là, eh bien, à Rome, Bramante faisait des grandes constructions, Raphaël, Michel-Ange, le Bernin, tout ça, ça coûtait cher, et les applessen, donc les indulgences servaient beaucoup à remplir les caisses pour payer ces artistes et tous les ouvriers qui faisaient ces œuvres. Alors Luther est complètement révolté contre cela, et il placarde, comme on dit, 97 thèses contre les indulgences. 97 raisons pour être contre les indulgences. Et il colle ça à la porte de l'église de Wittenberg. Et voilà, ça fait évidemment du bruit, du ramdam. On vient lire ça, on dit voilà, Luther est occupé à saboter complètement toutes les œuvres catholiques qui se basent notamment sur ces ventes d'indulgences. Alors il y a toutes sortes d'accusations, etc. Mais finalement, il y a une bulle du pape qui condamne 41 erreurs de Luther. Mais Luther ne s'en fait pas. Il prend la bulle du pape et il la brûle en public. Pour bien montrer qu'il n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, allons-y aussi, il prend le droit canon et il le brûle en public. Donc il commence à faire des gestes comme ça, très prophétiques. Brûler le droit canon en public devant une église, bon, ben, évidemment, ça fait mousser... la hiérarchie. Donc, 1521, on l'excommunie. Avant cela, on lui a demandé de venir s'expliquer à Rome. En 1518, on lui a dit, venez un peu expliquer vos thèses là, contre les indulgences. 1518, mais il a dit, non, je ne vais pas à Rome pour m'expliquer parce que je me souviens de Jean Hus. Je me souviens de Jean Hus en 1415, on l'avait aussi invité à venir s'expliquer sur ses problèmes à Constance. On l'a brûlé, quoi. Donc l'explication finale, c'était le bûcher. Alors Luther a dit, non, moi je ne vais pas à Rome m'expliquer, venez vous expliquer, plutôt vous. Alors on lui a envoyé, en effet, l'un ou l'autre dominicain qui est venu expliquer, mais ça n'a servi à rien. Donc en 1521, il est excommunié, et non seulement il est excommunié, mais l'empereur, donc, le bannit de l'Empire, le met au banc de l'Empire. Alors ça veut dire quoi, être au banc de l'Empire? Ça veut dire qu'on subit une peine qui consiste à ne plus être protégé par la loi. N'importe qui peut vous tuer dans la rue. Vous n'êtes plus un citoyen. Voilà, vous n'êtes plus protégé. Et donc, si vos ennemis ont envie de vous tuer, ils vous tuent et ils ne seront pas poursuivis. Ils seront tout à fait impunis. C'est ça, être au banc de l'Empire. Alors, que va-t-il ? Eh bien, c'est toute une aventure. Il rentre chez lui, il est enlevé par des bandits, on ne sait pas quoi. Mais en fait, non, il est enlevé par des amis plutôt. Frédéric le Sage l'a fait enlever pour le mettre dans son château de la Wartburg. Alors, la Wartburg, c'est un château qui est sur un piton rocheux, comme ça, tout près de Eisenach. On le voit à 60 km à la ronde, parce que c'est une plaine. Et là, il y a un piton, il y a la Wartburg au-dessus. Et Frédéric le Sage le protège. Tout le monde sait qu'il est là et personne n'arrive à le prendre parce que ce château est extrêmement bien défendu. Et donc Luther est là au sommet qui regarde autour de lui, qui viendra le prendre. Il n'y a personne qui vient évidemment. Et pendant ce temps-là, eh bien, il se dit, on va utiliser ce temps de manière efficace, il se met à traduire la Bible. 1521, il se met à traduire le Nouveau Testament et puis l'Ancien Testament. Il connaissait extrêmement bien le grec et l'hébreu. Et puis finalement, cette histoire du banc de l'Empire tombe, puisque il prend une renommée extrêmement grande. Instamment, le tiers de ce qui était publié en Allemagne était de la plume de Luther. Donc, toutes les imprimeries commençaient à lancer les écrits de Luther. Beaucoup de prédicateurs sont des anciens religieux. Le clergé est facilement entraîné. Il semble que personne du haut clergé n'ait été tenté par les théories de Luther. Aucun évêque ne fut gagné par la réforme, ce qui est très important pour la question justement de la succession apostolique. Hein. Si on n'arrive pas à avoir un évêque pour ordonner de futurs prêtres, si on veut, ben on n'est pas dans la succession apostolique. Donc, du côté luthérien, c'est une idée ecclésiologique extrêmement importante, hein, il n'a pas réussi à conquérir des évêques, et donc toute la tradition des pasteurs, etc., n'est pas dans la tradition apostolique. Luther se marie en 1525, il n'était pas sorti de son couvent pour cela, il était sorti à cause des excommunications, tout ça. Il se marie avec Catherine von Bora, voilà, qui était une religieuse cistercienne. Mais attention, c'était une religieuse cistercienne qui était entrée au couvent à l'âge de 7 ans, ou 8 ans. Donc, ça c'était un petit peu les affaires de l'époque. Hein. Bon, on ne savait pas trop quoi faire avec certains enfants dans les familles nombreuses. Alors, elle était, voilà, devenue cistercienne à 8 ans. Alors, je ne sais pas si c'était une vocation extrêmement profonde, mais en tout cas, quand la vague luthérienne est arrivée, il y a énormément de religieux de ce type-là qui ont quitté. Hein. Et donc ça a désorganisé complètement l'Église catholique. Alors, quelle est finalement son intuition, la tourne Erlebnis? Je lis un auteur protestant qui essaie d'expliquer ce que c'est. Donc il est rongé par les remords, par les scrupules, il est toujours contre la loi, il ne parvient pas à appliquer la loi, il ne parvient pas à obéir à Dieu, tous les commandements sont impossibles à vivre, hein, parce que l'homme est mauvais, en fait, hein, c'est ça son idée, l'homme est mauvais, il est foncièrement corrompu jusqu'à la moelle, il n'y a rien de bon en lui. Alors comment va-t-il faire? Oui, parce que les catholiques croient qu'il y a du bon en l'homme, et c'est pour ça qu'ils vont faire des œuvres, pour se sauver par eux-mêmes. Hein. Mais non, on ne se sauve pas par soi-même, parce qu'il n'y a aucune base bonne pour se sauver. Hein. Tout est mauvais. Et c'est pour ça qu'il y a cette lutte intérieure. Alors brusquement, je lis, Luther s'avisa d'un chemin tout autre. Au lieu de raidir en vain et de surmener sa volonté débile, le chrétien qui se laisserait aller simplement à subir, avec un indicible mélange de joie et de terreur, l'action seule puissante d'une volonté surnaturelle, infiniment sainte et véritablement régénératrice. Le pécheur qui, désespérant totalement de soi et de ses œuvres, ne s'épuiserait plus à vouloir fuir l'enfer, mais en viendrait au point de l'accepter comme mille fois mérité. Saint Augustin, hein? Et au lieu de batailler pour se faire battre, se réfugierait sous les ailes de la poule en demandant à la plénitude divine le don de ce qui lui manque. Celui-là connaîtra enfin la paix et la consolation. Voilà, ça c'est un petit peu l'intuition de Luther, hein. C'est cesser de faire ses efforts par soi-même, lâcher prise, hein, ne plus vouloir contrôler la situation, mais s'en remettre totalement à Dieu, dans une foi pleine, absolue, simple, sans complications, sans credo qui viendrait nous dire qu'il faut croire ceci et pas croire cela, etc. Non, ça c'est la fidèle. Hein, quoi, comme il dit, ça c'est quelque chose à croire, mais c'est pas ça qu'il faut croire. Il faut croire en Dieu, croire dans sa bonté, et pas dans la Trinité ou dans l'incarnation, tout ça. Bon, peut-être que ça existe évidemment, mais il faut d'abord croire en Dieu, dans la personne de Dieu. Et si on a cette adhésion par la foi seule, sola fide, par la foi seule, eh bien, Dieu nous apaise, nous dit que toutes nos œuvres, il n'en a pas besoin, qu'il nous a choisis et que par sa grâce, nous sommes sauvés et nous pouvons entrer dans la communion avec lui. C'est une intuition très forte. Alors moi, je la comparerais un petit peu avec la petite voix de Sainte Thérèse. Vous vous souvenez, la petite voix de Sainte Thérèse qui aussi, instamment, hein, dit, mais enfin, il n'y a que l'amour, quoi. Hein, il n'y a que l'amour qui compte. Hein. Ça, c'est la voix sainte, la voix directe au lieu de prendre les escaliers, elle prend l'ascenseur de l'amour, c'est la voie directe. Eh bien, c'est un petit peu ce genre d'intuition, mais évidemment, Luther la met dans une autre sauce, si j'ose dire, tout à fait différent, avec beaucoup de scrupules et beaucoup de dramatisme, mais c'est quelque chose un peu de ce style-là. L'Église l'avait dit, oui, avant lui, mais sans mettre l'accent, comme il l'a fait, sur cette unique foi complètement donnée à Dieu et qui remplace les scrupules, qui remplace les œuvres, qui remplace les calculs sur « irai-je au ciel, irai-je en enfer ?» Je vais en enfer, c'est normal, c'est mille fois mérité. Mais donc maintenant, sachant cela, je m'en remets à Dieu et je dis « toi tu es miséricord, tu vas me sauver. » Et Dieu le fait en me donnant la paix. La paix. Alors il a eu la paix, oui, plus ou moins. Ça a quand même été un homme assez torturé toute sa vie, mais enfin il a trouvé la paix dans ce style de foi. Et puis alors, voilà, je crois qu'il a rencontré aussi beaucoup de gens qui trouvaient que cette foi pure, était quand même le cœur de l'Évangile. Et on ne peut pas dire tout à fait que c'est faux. Il faut une foi, bien sûr, mais est-ce que c'est sola fide? Est-ce que c'est sola gratia? Est-ce que c'est sola scriptura? Ça, c'est autre chose. Luther prend un élément et le dissocie des autres. C'est souvent ça, l'hérésie. Le mot hérésie veut dire choisir. On choisit un élément et on dit c'est le seul. C'est ça, l'hérésie. Choisir la foi, ce n'est pas du tout un mauvais choix. Mais dire que la foi exclut la charité, exclut les œuvres, exclut... Bon, alors là, évidemment, c'est un choix exclusif. Et c'est une hérésie. Donc, au fond, quelle est la théorie de Luther? La justification forensique. La loi divine est là pour nous commander des choses qu'elle sait très bien que nous ne pourrons pas observer. Elle est là pour humilier notre orgueil. Pour nous dire que nous sommes radicalement mauvais. C'est ça. Ce que la loi divine, les commandements et toute la Bible nous dit. Vous devez faire ça, et nous savons, et Dieu sait bien que ce sera impossible. Eh bien alors, il faut crier au Seigneur, c'est impossible, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et à ce moment-là, on a compris le message de la Bible, selon Luther. Celui qui croit qu'il va pouvoir respecter les commandements, eh bien, il est dans l'orgueil du pécheur. Dans l'orgueil du pécheur. Et justement, il faut que la Bible nous humilie, que le message des prophètes, le message de saint Paul nous humilie comme pécheurs, pour que nous nous rendions compte que nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Alors finalement, quand Dieu nous a pardonné, quand Dieu nous a justifié, quand Dieu nous donne cette foi et que nous adhérons à Dieu, qu'est-ce qui se fait? Je deviens un saint? Eh bien non, justement. Je reste un pécheur. Mais Dieu me justifie. Alors ça veut dire quoi la justification? La justification veut dire que Dieu me condamne et me gracie. C'est ça la justification. Dieu me condamne et me gracie. Dieu m'accuse et m'acquitte. Ça, c'est la justification pour Luther. Devenir juste, ça veut dire aller au tribunal. Justification forensique, forensique veut dire tribunal. C'est aller au tribunal, admettre tous ses péchés, et Dieu dit, voilà, tu es condamné, tous ces péchés, c'est vrai, tu les as faits. Je te condamne et je te gracie. Maintenant, au lieu d'aller en prison, tu peux retourner chez toi. C'est ça la justification. Mais quand je sors dans la rue, tout le monde sait que j'ai fait tous ces crimes et que ce n'est pas parce que je suis dans la rue qu'on m'a découvert l'innocence. C'est ça la justification forensique. Donc, dans un même geste, je suis condamné et libéré. Alors ça, c'est l'image que je me fais. Tout le monde sait bien que j'ai fait tous ces crimes. Et pourtant, si je suis dans la rue, c'est parce que le juge, Dieu a dit, allez, va-t'en avec ma grâce, avec la foi, et maintenant, va voir. Et le bien que tu vas faire va découler de cette reconnaissance pour cette justification que tu as reçue. Mais le bien que tu vas faire, ce n'est pas toi qui vas le faire parce que tu veux le faire, c'est un fruit de cette justification gracieuse, gratuite. Donc voilà, nous sommes tous des pécheurs, et quand nous sommes justifiés, nous ne devenons pas des saints, nous restons des pécheurs. mais nous sommes simul justus et peccator. C'est écrit là sur votre feuille. Hein. Simul justus et peccator. Vous êtes en même temps juste parce que vous n'êtes pas en prison, et en même temps pécheur parce qu'on vous a bien reconnu tous ces crimes qu'on a bien vu au tribunal et qui n'ont pas disparu par le fait qu'on vous a élargi et que vous êtes dehors. Donc l'homme est continuellement simul, ça veut dire en même temps, justus et peccator. Dans le bien que je fais, grâce à Dieu, hein, il y a quand même mon péché. Je ne fais jamais un geste absolument bon. Et tous les gestes et toute ma vie de croyant ne va pas faire de moi un saint. Je vais rester le pécheur que je suis. Mais dans cette foi, je serai en même temps juste aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Dieu a dit que j'étais juste. Mais tout le monde sait bien que c'est faux, et moi je sais aussi que c'est faux. Mais je vis dans cette reconnaissance que Dieu ne me tient pas rigueur de tous ces crimes que j'ai faits. Ne me punit pas pour tout cela. Au contraire, il me libère. Et c'est dans cette conviction donc que vit Luther et le protestant en général. C'est ça qu'il appelle la justification forensique. Parce que le catholique, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va au tribunal, hein, et puis Dieu le libère. Et alors il dit, ben vous voyez, hein, je suis libre parce qu'au fond, j'avais rien fait. Hein. J'avais aucun crime. Hein. Donc je suis un saint, en fait. Hein. Donc je vais me confesser de tous les péchés, tout ça. Ou bien je suis baptisé, ou je vais me confesser. Et puis Dieu me libère, je sors, je dis, vous voyez, il m'a libéré. Donc c'est qu'en fait, j'avais pas tous ces péchés, je ne les avais pas. Hein. Ou bien, en tout cas, je deviens saint. Hein. Je deviens de plus en plus saint. Mais c'est extraordinaire, quoi. Hein. Alors l'orgueil monte, etc. Et voilà la sainteté, l'idée qu'on est sanctifié par Dieu, ça ne fait que monter la tête hein, au pécheur qui se remplit d'orgueil. Il faut que le pécheur continue à croire que si Dieu le libère, ce n'est pas pour en faire un saint, c'est pour qu'il vive humblement sa vie de condition de pécheur. Parce que foncièrement, l'homme est mauvais, même après le baptême, même après la confession, même après toutes les grâces. Il reste le pécheur. C'est une vision très pessimiste, hein, de la nature humaine comme corrompue. Corrompue. Alors souvenez-vous que j'avais dit qu'avec saint Thomas, je dirais voilà, hein, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Et pour saint Thomas, le mal n'existe pas. Bon, parce qu'en fait, bon, ben, ça c'est la sainteté, ben, bon, voilà, on est descendu un peu plus bas, mais on n'est pas descendu comme pour Luther. Hein, on était ici, on est descendu là-bas. On est vraiment ici dans le mal. Hein? Ça c'est le mal, ça c'est le bien. L'homme est ici et ne parvient pas à remonter la pente. Il reste là. Mais Dieu fait comme s'il ne voyait pas. Et lui donne la paix. Tandis que pour saint Thomas, bon ben, on ne peut pas descendre plus bas qu'ici. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut descendre dans le bien parce qu'on choisit des biens de plus en plus ridicules, de plus en plus particuliers, de plus en plus peu universels. Mais une fois qu'on est là, le seul bien qui reste, c'est qu'on existe. Ça, on ne peut pas l'enlever. Hein. Et être dans du négatif pour saint Thomas, ben, ce n'est pas possible. Le mal n'est jamais qu'un bien relativement plus petit que le bien qu'on avait choisi, qu'on pourrait choisir. Tandis que pour Luther, là, on franchit la barre, hein, et on est vraiment en dessous, et on est vraiment dans le mal, et on ne parvient pas à en sortir d'une certaine manière. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la toute-puissance de la grâce, qui fait en sorte que le péché ne m'est pas imputé, mais il n'y a pas de transformation intérieure profonde ici-bas. Nous devons tous nous regarder les uns les autres, non pas comme des saints en puissance, mais comme des pauvres pécheurs que Dieu laisse vivre, hein, et dont le temps qu'il nous a justifiés, et voilà, mais nous ne sommes pas plus que ça. Nous sommes simul justus et peccator dans chaque geste que nous faisons. Ça nous rappelle la question de la vertu des païens. Hein, chez saint Augustin, je ne sais pas si vous vous souvenez, même les actes bons du païen sont des péchés, selon saint Augustin. Hein. La question de la vertu des païens. Alors, le Concile de Trente, évidemment, après toute cette ébullition hein, de Luther qui il est condamné, ses erreurs sont condamnées, il entraîne beaucoup de religieux et de prêtres à l'extérieur de l'Église catholique, ils commencent à s'organiser, etc. Mais il n'y a pas que lui, il y a Mélenchon, donc il a des alliés, si on veut. Il y a le français Calvin, il y a le suisse Zwingli, enfin bon, il y a toute une série de gens qui commencent à tourner autour de lui et qui choisissent aussi un petit peu des théories différentes de la sienne, hein, parce que assez rapidement, la théorie de Luther se diversifie en camps qui se battent entre eux, d'ailleurs, les baptistes, les anabaptistes, enfin bon. Alors, contre cette désorganisation de l'Église à cause de Luther, voilà qu'on veut convoquer un concile. Mais comme je vous ai dit, c'est pas facile parce que l'Europe est en lutte avec ces deux grandes puissances. Mais finalement, le pape, il y a eu quatre papes successifs qui ont présidé aux trois sessions de Vatican de 30, pardon. Il y a eu deux empereurs, un roi, enfin bon, il y a toutes sortes de gens qui sont intervenus. Il y a eu trois sessions. Alors vous avez ça sur votre feuille de route. Trois grandes périodes plutôt, avec 25 sessions en trois fois. Voici les sessions, le thème des sessions les plus marquantes. Alors vous vous souvenez que ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était les indulgences.
Oui.
Alors, est-ce qu'on va traiter des indulgences à la première session? Tactique catholique. Attention, on prend l'ennemi par derrière. Donc, le sujet le plus épineux, on va en parler le plus tard possible. Et vous allez voir que c'est toujours comme ça. Donc, où parle-t-on des indulgences? Dans la dernière session. La session 25, le purgatoire, les reliques et images, les indulgences. Donc, c'est ça qui avait mis le feu aux poudres. On en parle tout à la fin. Et avant ça, on met en place toute une série de prérequis, de présupposés, etc., pour expliquer le point de vue catholique. On parle du canon des Écritures, de la Vulgate, donc Sola Scriptura, du péché originel, c'est la session 5, c'est là que nous allons étudier avec les six canons que vous savez sur votre feuille. La justification, cette fameuse justification extrinsèque, forensique, ou au contraire, cette justification intérieure que les catholiques prônent en disant que lorsque Dieu nous justifie, nous allons aussi au tribunal. Nous confessons aussi nos péchés. Et puis Dieu nous dit, tous ces péchés, non pas je ne les regarde pas, je les vois, mais je les pardonne, et maintenant je donne la grâce de croître, de grandir en sainteté. Tu es juste, pas seulement à mes yeux, mais tu es juste en toi-même, essaie de ne plus être pécheur, mais tu peux grandir en sainteté. Donc la justification telle que les catholiques la voient contre la manière luthérienne de la voir. Les sacrements en général, avec le baptême, puis l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, la communion des enfants, etc. Enfin, peu importe, voilà. Mais tactique catholique, c'est la diplomatie vaticanesque, je crois, de tous les temps, prendre l'ennemi calmement, le plus tard possible, de traiter les problèmes dans le fond, pas trop vite. Je crois que c'est une excellente tactique, entre nous. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous allons lire les différents canons. Il y en a six. Oui, je vais encore vous dire une chose, c'est que le concile donc réunit les pères conciliaires, comme on dit, Alors on dit, on va traiter de la théorie de Luther. Oui, mais parmi les catholiques, il y avait des positions très différentes par rapport à Luther. Il y en avait qui étaient quasi luthéranisants. Qui disaient, mais ce que dit Luther, c'est pas si faux que ça, quoi. Je ne veux pas être luthérien, mais je suis assez bien d'accord avec sa critique. D'autres qui étaient presque pélagiens, en disant, mais cette affaire de grâce et tout, les bonnes œuvres, il faut faire les bonnes œuvres, puis c'est tout, la grâce, c'est une petite vitamine peut-être qui vous aide, mais on n'a pas vraiment besoin, on peut se débrouiller vraiment. Donc, il y avait des pélagianisants, il y avait des luthéranisants, puis alors il y avait ceux qui étaient un peu au milieu, mais il y avait des écoles différentes. Il y avait ceux qui tenaient pour Augustin. Alors vous vous souvenez de la définition des péchés originels d'Augustin, très sombre. Ce qui tenait pour saint Thomas d'Aquin, avec une définition beaucoup plus sereine, beaucoup plus positive. Et puis, à cette époque-là, il y a une troisième école qui vient se mettre entre les deux. C'est laquelle ?
Jésus.
Les Jésuites. Les Jésuites ont été fondés en 1540.
Avec saint Ignace.
Avec saint Ignace de Loyola, pratiquement contemporain de Luther. Et en 1540, donc fondation des Jésuites, le concile commence en 1545. Et le pape Paul III désigne deux jésuites comme théologiens du pape, hein, qui vont travailler au concile. Ces deux jésuites, c'est Laynès et Salmeron. Laynès, c'est un espagnol probablement converso, un juif converti de la deuxième génération peut-être, et Salmeron, c'est un français. Alors, saint Ignace dit, oui, vous allez aller au concile, oui, le pape vous demande au concile, oui, vous pouvez y aller, hein, il faut aller au concile. Il faut bien travailler au concile. Mais attention, à une seule condition, c'est que vous ne logiez pas dans les palais ecclésiastiques. Vous devrez loger à l'hôpital avec les malades.
Ah bon?
Ça, ce sont les expériments, hein, que saint Ignace donne aux novices, etc. Donc, il a demandé à ces deux théologiens, le soir, de rentrer, bon, équivalemment chez les petites sœurs des pauvres, quoi. Ils ont demandé une chambre, là, dans une institution caritative. Ils ne voulaient pas qu'ils aillent, donc, dans les palais, etc. Et donc, Laynès et Salmeron ont été ces deux jésuites qui ont travaillé au concile tout le temps. D'ailleurs, à la troisième session, Laynès avait été déjà nommé général. Donc, c'est en tant que général qu'il a fait la troisième session, général des jésuites. Et ils ont beaucoup travaillé à beaucoup de décrets importants, dont le péché originel. Alors, nous allons lire les six canons. Comme je vous ai déjà dit, hein, les canons, il faut lire ça de manière très, très précise. Ce sont des textes qui ont été vraiment peaufinés, profilés, etc. Il y a six canons. Alors, j'ai mis DZ, ça veut dire Denzinger. Denzinger, c'est ce bouquin-ci, hein, qui réunit tous les énoncés les plus importants de la dogmatique catholique. Denzinger, numéro 1511, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, par parenthèse, mais ça c'est un petit détail, hein, les numéros ne sont pas suivis. Ça veut dire que vous pouvez avoir 1422, et puis on passe à 1500. Et puis après on passe à 1600. Donc les numéros indiquent aussi un peu des périodes et des choses comme ça, hein. Donc voilà, c'est pas toujours suivi. On va lire ces six canons. D'abord, le nota bene, les italiques dans les canons que je vous ai indiqués là, les italiques indiquent les citations reprises au concile de Carthage et d'Orange. Donc le concile de Trente va, c'est un concile œcuménique, universel, mais il va reprendre des énoncés qui ont été prononcé déjà dans les conciles locaux très anciens de Carthage 418 et d'Orange 529, qui sont donc des conciles locaux qui n'ont pas une grande importance, mais qui reçoivent cette importance du fait que Trente les réassume. Et en petite capitale, là, je prends les termes de la réforme, les termes donc de Luther. Alors, on va survoler maintenant simplement les six pour voir où il y a des italiques et où il y a des capitales. Regardez dans le premier canon, il n'y a pas de capitale. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas le vocabulaire de Luther. Mais il y a des italiques, on prend le vocabulaire de l'Antiquité. Dans le deuxième canon, là aussi, il y a des italiques. Donc on réassume les conciles anciens. Dans le troisième canon, il y a que des caractères droits et sans capitale. Ça veut dire que ça, c'est un canon qui est neuf, il est nouveau, il a été rédigé par Trente sans citer des trucs anciens et sans affronter encore directement les termes de la réforme. Même chose pour le 4 que j'ai un peu laissé tomber parce que pratiquement c'est intégralement le canon de 418. Alors dans le 5, vous voyez que dans le 5, il n'y a pas de citation ancienne. Il y a des termes droits dans la première partie, et dans la seconde partie, on commence à voir des capitales. La concupiscence, le foyer du péché, tout ça. Là, on assume le vocabulaire de Luther et on en discute. Et dans le dernier canon sur Notre-Dame, c'est moins directement la question du péché originel, mais on en dira quand même un mot. Alors, je lis le premier canon. Voyez comme je l'ai disposé, hein. Si quelqu'un ne confesse pas, alors c'est ce qu'il y a en dessous, qu'il soit anathème, c'est ce qui est au bout de la ligne, de la première ligne. Hein. Si quelqu'un ne confesse pas, qu'il soit anathème. Alors, si quelqu'un ne confesse pas, quoi? Eh bien, il y a deux petits traits. Et dans le premier petit trait, il y a encore deux points. Vous voyez ça?
Oui.
Si quelqu'un ne confesse pas, quoi? Que le premier homme, Adam, après avoir transgressé le principe de Dieu dans le paradis, a perdu aussitôt la sainteté et la justice dans laquelle il avait été établi, et deux, a encouru ainsi la colère et l'indignation de Dieu, et par suite la mort dont Dieu l'avait auparavant menacé, et avec la mort, la captivité sous le pouvoir du diable, qu'il soit anathème, il y a encore l'autre partie, hein, et qu'Adam tout entier, etc. Laissons pour l'instant tomber les italiques. Réfléchissons un petit peu sur les deux petits points là. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu la sainteté et il a encouru la colère de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux choses? Le concile d'abord, hein, a mis ces deux choses l'une à côté de l'autre. Est-ce que dans le style, vous reconnaissez quelque chose de spécial? Adam a perdu la sainteté et la justice. Et en dessous, il a encouru la colère de Dieu, l'indignation et la mort et le diable. Je vous ai dit qu'il y avait différentes écoles. Hein. Voilà, la première partie, c'est une définition thomiste. C'est Thomas d'Aquin. Et la deuxième partie, c'est une définition augustinienne. Vous voyez ça, hein? Donc, on dit que Adam, bon ben, il est tombé. Il est tombé. Eh bien, je dirais que dans la première partie, on dit qu'il est tombé comme ça, et dans la seconde partie, on dit qu'il est tombé comme ça. Hein. C'est un peu les deux manières de parler. Les thomistes diront, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a perdu la sainteté, quoi. Bon, il n'est plus un saint. Bon, est-ce que c'est grave de ne plus être un saint? Bref. Oui, enfin, c'est mieux d'être un saint, mais est-ce que c'est vraiment dramatique? Ben, on n'en sait rien. Mais tomber au pouvoir du diable, ça devient grave, quoi. Hein. Donc, vous voyez comment le concile essaie de concilier l'école thomiste et l'école de Saint-Augustin. Et qu'Adam tout entier, dans son corps et dans son âme, a été changé en un état pire. Donc voilà, c'est une drôle de formule, hein. Il a été changé en un état pire. Pire, c'est ça ou c'est ça? C'est les deux. Hein. En un état pire, enfin, je ne sais pas si c'est pire ou un petit peu pire. Hein. Donc, en fait, en 529, à Orange, il y avait le terme corruption. Si vous allez revoir le canon d'Orange dont il s'agissait, il y avait le terme corruption. Ben, celui-là, on l'a effacé. Pourquoi? Donc, on n'a pas dit qu'Adam était corrompu. Le concile n'a pas voulu dire ici qu'Adam était corrompu. D'ailleurs, ce mot corruption ne se trouve nulle part dans ce décret sur le péché originel. Pourquoi? Parce que c'était le dada de Luther, la corruption de l'homme. Alors on va essayer de dire tout ce qu'on veut dire sans utiliser le mot-clé de Luther. On dira un état pire. Voilà. L'homme est-il corrompu? Oui, c'est un peu moins bien. Quoi. Hein, c'est un peu moins bien qu'avant. C'est un état pire. Donc c'est un peu flou, on a éliminé le mot corruption et on a essayé de mettre côte à côte quand même les deux conceptions, thomiste et augustinienne. Alors le deuxième canon, si quelqu'un affirme, patati patata, qu'il soit anathème, il affirme quoi? Que la prévarication d'Adam, le péché d'Adam, n'a nui qu'à lui seul et non à sa descendance. Et qu'il a perdu la sainteté et la justice reçue de Dieu pour lui seul, et non pour nous aussi. Alors, qui est-ce qui disait ça? Que le péché d'Adam n'avait nui qu'à lui seul.
Thomas d'Aquin.
Non.
Pélage.
Pélage. Hein? Pélage disait que, voilà, Adam avait lui à lui seul, et maintenant vous, ben, vous n'avez qu'à ne pas l'imiter, quoi. Hein? L'exemple d'Adam est déplorable, d'accord, mais vous n'avez qu'à ne pas l'imiter, c'est tout. Vous n'êtes pas lié par ce qu'il a fait. Ce que ne disait pas saint Thomas, puisque saint Thomas insistait pour dire qu'Adam était, qu'est-ce qu'il était Adam dans sa personnalité ?
Fier.
Pater et instructor. Il avait la vocation vraiment de donner naissance et d'instruire le
père
genre humain.
De l'humanité.
Père de l'humanité. Hein. Alors en fait, voilà, celui qui dit qu'Adam n'a lui qu'à lui seul et pas à nous, qu'il soit la terre. Il faut croire qu'il y a une solidarité entre Adam et nous. Alors en fait, ces deux premiers canons ne font que condamner Pélage. En effet, en reprenant Carthage et Orange, on ne fait que condamner Pélage. Alors Calvin, qui a lu le Concile de Trente, il était très intéressé. Hein, dès que les canons sont arrivés, il s'est précipité dessus. Et alors il a dit, j'ai ici sa formule dans l'ancien français, hein, je ne la retrouve plus tout de suite. Enfin, peu importe, il dit quelque chose comme ceci. Il fallait bien, voilà, c'était bien en vain de réunir un concile. C'est toi bien en vain que le concile s'est toi amusé à traiter de l'impiété pélagienne condamnée depuis plus de 1000 ans. En effet, donc les deux premiers canons ne font que condamner Pélage, qui était condamné depuis 1000 ans. Mais pourquoi est-ce que l'Église catholique recondamne Pélage? Pourquoi est-ce que l'Église catholique recondamne Pélage? Parce que les protestants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accusaient les catholiques d'être pélagiens. Donc, puisque les protestants accusaient les catholiques d'être pélagiens, les catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Comment? Ils vont commencer par condamner Pélage. Hein? Pour bien dire, nous, on n'est pas pélagiens. Donc, vous vous trompez. Hein? C'est un peu des questions de gauche et de droite. Vous dites, on dit, vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Non, non, non. À ma gauche, il y a encore un plus à gauche. Quoi, hein? Donc, je suis au milieu. Quoi, hein? Ça, c'est un peu l'idée. Calvin donc a dit, ben, ces deux premiers canons ne servent à rien, on condamne Pélage. Oui, mais ils servent justement à positionner les catholiques comme n'étant pas des pélagiens. Et ça, c'est très important. Alors, les deux canons suivants sont d'accord avec Luther. On marque l'accord avec Luther. Si quelqu'un affirme que ce péché d'Adam, vous voyez, 1513, là, le troisième canon, si quelqu'un affirme que qu'il soit anathème, si quelqu'un affirme que ce péché d'Adam, 1, 2, 3, on va le qualifier, hein, est enlevé par les forces de la nature humaine, ou par un autre remède que le mérite de l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Et ce péché d'Adam, il est unique par son origine, il est transmis par propagation, et non par imitation, et il est propre à chacun. Alors, au fond, c'est ici la définition la plus précise du péché originel. Le péché d'Adam, il est unique par son origine, c'est lui le responsable, il est le seul responsable. Mais il est transmis par propagation. Alors vous vous souvenez que le terme propagation, je vous ai déjà dit qu'il remplaçait un autre terme, le terme de génération. Pour ne pas impliquer la génération sexuée, etc. dans l'histoire, on dit propagation. Pour éloigner donc cette idée que le péché originel est transmis par l'acte sexuel. Et il est propre à chacun. Chacun l'a quand même reçu pour lui, hein, ce péché. Il l'a. Il est en lui. Il n'en est pas responsable. Mais il l'a. Pourquoi? Parce qu'il lui a été transmis. C'est quelqu'un qui l'a reçu parce qu'il est solidaire avec les autres, avec d'autres, hein, qui... Vous pouvez prendre place, il y a encore des places ici, ou bien... Venez, madame.
Merci.
Voilà, vous avez fait un marathon avant d'arriver.
Je suis pas bien, mais je ne trouvais pas mon fils. J'ai demandé un taxi, donc il faudrait que j'aille dire que le taxi va arriver en bas. Et en fait, il est là.
Non, mais écoutez, je ne peux pas m'occuper de ça maintenant.
Non, mais je vais venir, mais je vais aller dire au
d'accord,
taxi de repartir.
Ça va.
Merci.
Ok, très bien. Donc ici, nous avons cette définition, disant que chacun a en lui ce péché, qu'il n'en est pas responsable et qu'il lui a été transmis, et qu'il doit en être libéré. Et il en est libéré comment? Pas par ses propres forces, mais par les mérites de l'unique Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous allez dire, oui, c'est un peu curieux de porter ce péché dont on n'est pas responsable, mais vous savez, par exemple, que juridiquement, si on est marié en communauté de biens, si le mari a des dettes, la femme doit payer. Hein. C'est ce genre de solidarité. Si votre père a fait des dettes et que vous voulez hériter de votre père, vous héritez de ses dettes. Bon, c'est un exemple comme ça. Mais concrètement, dans l'humanité, cette solidarité, qu'on peut dire peut-être abusive ou injuste, quoi, elle existe. Hein, elle existe. Et en fait, nous transmettons le péché originel les uns aux autres. Hein. Ce n'est pas simplement moi qui suis parfaitement innocent, je n'ai jamais fait de mal, et puis tout à coup, mon père a transmis le péché originel. Quoi, hein. Parce que lui est un grand pécheur. Mais non, je suis comme lui. Je suis dans la même mentalité. Hein. Donc voilà, on dit bien que c'est Adam qui en est responsable, mais qu'il a été transmis par cette solidarité qui existe entre nous. Alors solidarité qui est d'autant plus importante que quoi? Eh bien qu'elle sera active avec Jésus-Christ, qui lui va nous faire une solidarité dans le bon sens, je dirais. Hein. C'est grâce à cette solidarité que nous allons être sauvés. C'est à cause de cette solidarité que nous sommes, je dirais, grevés par ce péché, mais c'est à cause, grâce à cette solidarité, que nous allons être sauvés par le Christ. Donc cette solidarité entre les êtres humains joue en notre défaveur pour Adam, mais va jouer en notre faveur pour notre solidarité avec le Christ. Donc je dirais que celui qui dit « moi je ne veux pas de la solidarité avec Adam », il risque de devoir dire aussi « je ne veux pas de la solidarité avec le Christ ». Et là, c'est sa perte. Hein. Donc, je dirais, cette solidarité, elle est pour le meilleur et pour le pire. Si on ne la veut pas, on va perdre le meilleur. Hein. Je crois que c'est ça l'essentiel de l'idée de solidarité. Il faut assumer cette solidarité que nous avons entre nous et avec Adam pour le mal, parce que c'est grâce à cette solidarité que le Christ va nous transmettre le salut. Et d'ailleurs, le péché originel, finalement, il est défini de quelle manière? Eh bien, il est défini en disant que ses effets, il n'y a pas moyen de les supprimer, sauf par le Christ. Alors ça, je dirais, c'est la définition la plus précise du péché originel, mais qui est aussi un peu au quatrième degré. Hein. C'est quoi le péché originel? C'est ce dont on ne peut être sauvé que par le Christ. Le péché originel a toutes sortes de conséquences. Lesquelles? Bon, lesquelles, on ne sait pas très bien, c'est un peu pire, un peu très pire, on ne sait pas trop bien. Mais de toute façon, il n'y en a qu'un qui peut nous en sauver. De quoi? De ce truc-là qu'on n'a pas bien défini. Hein? Il n'y en a qu'un qui peut nous en sauver, c'est le Christ. Ça, c'est la seule chose sûre, hein? La seule chose absolument certaine dans la foi. Donc, c'est finalement la définition du péché originel. C'est ce dont le Christ est venu nous sauver. Et alors, ne réfléchissons pas trop à quoi. Entrons dans ce salut, réjouissons-nous de le recevoir et marchons dans la sainteté. Ne nous braquons pas sur ce qui est mauvais. Accueillons la grâce qui nous est donnée pour nous en sortir. C'est un peu ça le message, je dirais, spirituel du troisième canon. Alors, le quatrième canon, c'est pour dire que le baptême des petits-enfants doit être fait, hein, il peut être fait. Les baptistes, les anabaptistes, etc., disaient non, il faut baptiser que les adultes qui ont conscience d'avoir des péchés, tout ça. L'Église a toujours tenu le baptême des petits-enfants, et on le répète en ajoutant seulement « même s'ils viennent de parents baptisés ». Caractère droit, là, c'est la seule chose que le concile dit de lui-même. Alors le cinquième canon est le plus important par rapport à Luther. Si quelqu'un nie que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on fait au baptême, la faute du péché originel soit remise, ou même s'il affirme que tout ce qui a vraiment et proprement un caractère de péché n'est pas totalement enlevé, mais seulement rasé ou non imputé. Alors j'ai mis non imputé en petite majuscule parce que ça, c'est les paroles de Luther. Hein. Le péché n'est pas imputé. Je reste le pécheur, mais on fait comme si je ne l'étais pas. Eh bien ça, c'est faux. Le baptême, le Christ enlève le péché. Non seulement il dit « je ne le regarde pas », non, non, il dit « il n'est plus en toi ». Il n'est pas rasé comme s'il allait repousser, hein. Il n'est pas non imputé comme s'il était là mais qu'on faisait semblant de ne pas voir, non, il est vraiment remis, enlevé. Hein. En effet, ceux qui sont renés du baptême, plus rien en eux n'est objet de la haine de Dieu, ils sont devenus innocents, ils sont fils de Dieu, aimés de Dieu, rien ne retarde leur entrée dans le ciel. Voilà, donc ce péché qui était en nous, oui, d'accord, par solidarité, il est vraiment enlevé. Il n'est pas seulement non imputé ou tout ce qu'on veut, donc ça c'est vraiment contre Luther. Hein. Alors, l'explication est importante, parce que pour Luther, la preuve du péché originel, et c'était presque même sa définition, c'était la concupiscence. Une concupiscence, un désir du mal, un désir de faire le mal qui était quasi irrésistible, puisque l'homme est corrompu. Ça, c'était quasi la définition matérielle et lourde du péché originel pour Luther. Alors, comment est-ce que le Concile de Trente considère la concupiscence ? Que la concupiscence, on prend enfin le mot de Luther, ou le foyer du péché, le fomes, le tison du péché, demeure dans les baptisés, le Concile le reconnaît. Le fait que je n'ai plus de péché originel ne veut pas dire que je n'ai plus de concupiscence. Parce que la concupiscence n'est pas la définition du péché originel. C'est un désir qui est en moi. Et le Concile reconnaît et pense que ce désir reste en moi. Cette concupiscence qui nous est laissée pour le combat. Alors ça, c'est vraiment la théorie catholique. Hein. Cette concupiscence est en nous, non pas pour nous couler, mais c'est la vie, c'est l'épreuve de la vie. Hein. Elle nous est laissée pour le combat et elle ne peut nous nuire si nous n'y consentons pas, si nous y résistons courageusement, aidés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Bien plus! Donc on dit, oui, il y a peut-être une tendance en nous qui veut aller vers le péché, hein, mais ce n'est pas un péché. Être tenté, ce n'est pas péché. Et être tenté, eh bien, ça nous exerce au combat. Bien plus, celui qui aura dûment combattu sera couronné. Ça, c'est un peu la manière de présenter la chose en disant, vous êtes toujours dans l'épreuve, réjouissez-vous, vous allez gagner. Et vous allez recevoir la couronne, vous allez être couronné. Cette concupiscence que l'apôtre Paul appelle parfois péché, le Concile déclare que l'Église catholique n'a jamais compris qu'on l'appelât péché en un sens vrai et propre pour les baptisés. La loi du péché qui est dans mes membres, qui me pousse à faire le mal, etc., ce n'est pas un péché. C'est un désir, peut-être, de faire le mal, mais la tentation, je répète, n'est pas un péché. Elle est là, l'épreuve, hein, pour que nous luttions et pour que nous l'emportions. Elle est appelée péché parce qu'elle provient du péché et y incline. Mais je ne sais pas comment parler péché. Alors ça, je crois que c'est très important au niveau de l'intuition du Concile, hein, c'est de dire que Luther va dire, ben, puisqu'il y a en moi le désir de faire le mal, hein, c'est que je suis corrompu. Eh bien, le Concile dit non, à partir du moment où on est baptisé, le péché originel n'est plus là, mais comme conséquence du péché originel, ça oui, dans cette solidarité, il y a toujours ce désir, cette difficulté, cette tension, hein, qui est en moi, mais qui ne peut me faire aucun tort si je reste accroché au Christ. Si je vis de sa grâce, hein, si je vis de la confiance dans le Christ. Si éventuellement il arrive de tomber, eh bien, la grâce est redonnée pour se relever. Et au total, eh bien, nous serons couronnés pour avoir bien combattu. Alors donc, ce n'est pas une idée pessimiste, mais c'est quand même une idée combative. Hein. C'est quand même une idée où la présence du mal est en nous, mais il ne peut rien nous faire de dramatique ou de définitif si nous restons accrochés au Christ et que si nous recevons sa grâce. Alors c'est l'idée que être tenté n'est pas péché. Ça c'est fort important. Je vous rappelle que la lettre de Saint Jacques, pardon, commence avec ce verset. Au deuxième verset, il est mis « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes de peirasmoi, à toutes sortes d'épreuves ou de tentations. » Le mot tentation et le mot épreuve en grec c'est le même. Des livres ne nous laissent pas entrer en peirasmoi, en tentation, en épreuve, c'est cela. Saint Jacques commence sa lettre en disant « Tenez pour une joie d'être éprouvé par toutes sortes d'épreuves. » Voilà, donc c'est une théorie, je dirais, spirituelle qui nous met dans un état de combat, par rapport au péché du monde, le nôtre, celui des autres, mais un combat que nous n'avons pas perdu d'avance, mais au contraire que nous sommes appelés à gagner avec le Christ. Si nous avons confiance en lui, il ne faut pas avoir peur du combat. Alors les gens s'imaginent souvent que la sainteté, c'est pouvoir se reposer sur ses lauriers. Maintenant, on n'a plus de combat, plus de tentation. On rentre chez soi, on est en paix, on se sent bien, je suis saint, etc. Ben non. La sainteté, c'est le combat. La sainteté du chrétien catholique, c'est d'être prêt à se battre en sachant qu'il va gagner, en ayant la confiance qu'il va gagner. Et si jamais il perd, il ne se désespère pas. Il recommence, il continue. Et il ne pense pas pour autant qu'il est corrompu ou que ses frères sont corrompus. Je crois que voilà, c'est une spiritualité, qui prend les devants et qui ose affronter la réalité du mal dans le monde. Alors j'ai mis le verset 2, Corinthiens 5, 21, là je termine avec cela. Celui qui n'avait aucun péché, le Christ, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est un verset très compliqué, difficile à interpréter, mais voilà comment je le comprends dans cette optique-ci, même s'il n'est pas cité par le Concile de Trente. Celui qui n'avait pas connu le péché, le Christ est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions des justes. C'est cet échange, lui est juste, moi je suis pécheur, ben on va échanger. Lui prend mon péché, il devient péché, et moi je deviens juste. Et sur la croix, le Christ est fait péché, je dirais qu'il prend tous les péchés du monde sur lui. Adrien von Speyer, dans ses méditations, etc., montre que la croix du Christ, c'est la confession de tous les péchés du monde par le Christ. Il a pris sur lui tous les péchés du monde et il les confesse au Père. Et comme il les a fixés sur lui, ils ne sont plus en nous. C'est une image, Mais nous sommes capables, donc, par le repentir et par la confession, de détacher le péché qui adhère à nous. Et le Christ le prend, et lui il le prend de manière à ce qu'il ne lui échappe plus. Il le confesse au Père sur la croix, et le Père lui pardonne en le ressuscitant. Et nous pardonne du même coup. Voilà, je m'arrête ici.